Bonjour à tous, ça y est, vous l'attendiez avec impatience, voilà le dernier numéro de la saison. Après 7 heures passées avec nous, vous pourrez enfin profiter de vos vacances pleinement, sans avoir le stress d'attendre votre podcast préféré, ou d'être obligé d'aller voir la merdasse qui sort dans les salles obscures en ce moment, juste pour être à jour et pas vous faire spoiler. Vous l'aurez compris, vous êtes bien dans le podcast qui attend le mois d'août pour prendre une pause, et qui part de l'actualité du cinéma vu par le scénariste. Bienvenue dans C'est quoi le pitch, épisode 31. Aujourd'hui, un programme idéal pour ne pas aller au cinéma et profiter du soleil, puisque nous parlons de l'abominable crawl, du plus que soporifique The Operative et du gentiment ennuyeux Les Faussaires de Manhattan. C'est Guillaume au micro, et pour parler de tous ces films, j'ai autour de moi ma petite équipe qui est du genre à rester jusqu'à la fin des cours, comme à l'époque ou au collège, où après le dernier de conseil de classe, on savait pas trop pourquoi on venait, alors on jouait à puissance 4 en attendant la fin. J'ai nommé Armand et Fiona au courrier des lecteurs. Aujourd'hui, nous avons enfin reçu un mail, j'étais inquiet après plusieurs semaines de silence. Un mail donc de Apple Podcast qui nous dit, je cite, « Désormais, vous pouvez mettre à jour manuellement vos flux RSS ». Eh bien, merci à toi pour ce message. Et si vous voulez faire comme ce cher donotreply@applepodcast.com, vous pouvez nous écrire sur le Facebook de C'est quoi le pitch. Avant de commencer, on vous rappelle que ce podcast est 100% spoil et que chaque intervenant ayant le malheur de dire le mot truc entendra cette sonnerie et se verra en tirer la parole immédiatement. Armand, comme ça fait longtemps, t'es quoi, t'as le droit à un joker. C'est sympa quand même. On commence avec The Operative, écrit par Yuval Hadler, et c'est Armand qui nous le pitch.
Alors, c'est un thriller d'espionnage. Ça se passe à la fin des années 2000, alors que le monde craint que l'Iran ne se dote de l'arme atomique. Excusez-moi, je reviens. Voilà.
Oui.
Donc, Thomas, qui est joué par Martin Freeman, ex-officier du Mossad, le service de renseignement israélien, est contacté par Rachel, une de ses anciens agents, après plusieurs années de silence radio. L'espionne trilingue, anglais, allemand, français, mais pas hébreu, qu'il avait envoyé s'infiltrer en Iran, avait brutalement disparu sans laisser de traces. Elle refait surface aujourd'hui avec un mystérieux message « Mon père est mort encore une fois ». Thomas est ramené de force au Mossad qui compte bien découvrir comment Rachel avait échappé à leur surveillance et surtout dans quel but. Pas question de laisser dans la nature cette espionne incontrôlable en possession d'informations sensibles sur les opérations israéliennes en Iran. En interrogeant Thomas, le Mossad découvre qu'il était devenu beaucoup trop proche de son espionne et qu'il couvrait ses dérapages même lorsqu'elle démarrait une liaison avec Farad, le chef d'entreprise qu'elle était censée contrôler.
Voilà, donc globalement, j'ai trouvé ce film. C'est pas un mauvais film.
Non,
j'ai trouvé que ce film, n'avait pas un grand intérêt. Je veux dire, il commence le film, c'est une structure assez classique de. On commence par un mystère, on commence par un coup de téléphone, on comprend qu'il y a une sorte de mot de passe espion, et tout le film va être un flashback de comment on en est arrivé à cette situation. Et vraiment, on nous met un enjeu. Sur un espèce de système, on dit attention, il s'est vraiment passé quelque chose de grave, elle était ingérable, elle était dangereuse, et on voit Martin Freeman qui prend des dossiers en disant attention, cette fille est dangereuse, elle fait n'importe quoi. Donc moi, je m'attendais à quelque chose d'assez fort et pas forcément incroyable, mais d'assez dangereux.
Oui.
Concrètement, qu'est-ce qu'elle a fait ?
Un peu foufou.
Elle a couché avec sa cible. Ce qui est un peu ce que James Bond fait à peu près dans chacun de ses films, déjà pour commencer. Et puis, je sais pas ce que t'en as pensé toi, Armand, mais qu'est-ce qu'elle a fait de si grave que ça ? Pour être qualifiée de ultra dangereuse.
En fait, elle a pas fait quelque chose de complètement incontrôlable. Elle n'est pas devenue complètement incontrôlable. Oui, elle a couché avec sa cible. Bon.
Elle est devenue amoureuse.
Oui, c'est vrai, elle est tombée amoureuse de sa cible. Mais le problème, c'est qu'on te le dit dès le début.
Mm-hmm.
Et donc, on te spoil un peu la seule action un peu folle et incontrôlable qu'elle va faire, en réalité.
Elle est plutôt obéissante, elle vient à toutes les réunions, elle fait des efforts. Enfin, c'est un bon élève, quoi, vu qu'on est à la fin de la classe. Je veux dire, là, clairement, elle redouble pas. Quoi.
Et en plus, elle réussit ses missions au fur et à mesure qu'elle avance. Elle réussit même à s'en sortir quand ça dérape et que c'est même pas de sa faute. Donc,
C'est vrai que c'est un vrai film d'espionnage. Donc moi, je lui dis, on va voir vraiment... Pas forcément, je m'attendais pas à ce Transformer, je m'attendais pas à des voitures qui explosaient, mais je m'attendais à des scènes de tension. La plus grosse scène de tension, enfin, il y en a deux, mais une des plus grosses scènes de tension, elle redémarre un Windows, quoi. D'ailleurs, c'est pas non plus quelque chose de passionnant à regarder. On parlera après de cette deuxième mission, mais Fiona, qu'est-ce que t'as pensé de cette scène où elle va juste redémarrer et le gardien est présenté comme un... je vais pas dire un gros lard, mais c'est méchant, comme un gros gardien gentil mais un peu incompétent qui est tout seul pour vérifier une salle de serveur. C'est pas non plus un danger oufissime.
Bah oui, en fait, c'est le problème que j'ai avec tout le film. C'est, comme on l'a dit, c'est pas des dangers oufissimes. Les enjeux moi, ça m'échappait. Je regardais le film et j'avais l'impression de ne pas comprendre ce qui s'y passait, justement, de si grave. Donc, comme s'il y avait un secret qu'on ne me dévoilait pas. Et je me disais, effectivement, elle n'est pas si dangereuse. Et en plus, elle a l'air un peu noob pour faire cette mission. C'est peut-être ça le danger. À ce moment-là, pourquoi vous l'y avez envoyée?
En fait, surtout qu'elle ne parle aucune des deux langues les plus importantes.
Ouais, ça, c'est un énorme problème.
Elle ne parle pas la langue de ses patrons et elle ne parle pas la langue du pays qu'elle a infiltré, ce qui est quand même un peu spécial.
En fait, à chaque fois, je me disais, mais bon, qu'on voit la première mission. À un moment, je me suis dit, est-ce que ce film, c'est la première mission d'un agent infiltré? Et donc, comment il gère le stress, ne serait-ce que quand elle voit un moment les flics en bas et elle va se cacher chez sa voisine, enfin, le prétexte d'aller prendre le thé chez sa voisine parce qu'elle a peur qu'on vienne. Chez elle, en fait, je me disais, mais elle est un peu nulle. Enfin, j'ai pas l'impression qu'elle arrive très bien à gérer.
Après, elle devient meilleure.
Elle devient meilleure, oui. Donc, je me suis dit, c'est ça un peu le film. Mais dans ces cas-là, c'est pas vraiment. Mais en même temps, c'est pas ça le film. C'est pas. Donc, je savais pas ce qu'on me racontait et je me suis profondément ennuyée. Alors,
oui.
J'adore.
Parce qu'en fait, on t'a pas posé un vrai objectif. En fait, on t'a.
Exactement. J'étais
perdue. On t'a pas dit. On t'a pas posé les enjeux. On t'a dit, ok, elle doit infiltrer ça, mais on t'a pas dit précisément comment ça s'incarne, comment elle doit infiltrer. Mmh. C'est quoi le but exact? Donc, tu découvres un peu les buts au fur et à mesure. Tu découvres un peu les difficultés aussi au fur et à mesure. Et surtout, on t'a pas posé l'enjeu. On te dit pas que le but du jeu, c'est que l'arme atomique ne tombe pas entre de mauvaises mains. Comme ça, on te le montre jamais.
Ah, ils le disent au bout d'un moment.
Effectivement,
en fait,
comme c'est dit et pas montré, tu le ressens pas.
J'étais perdue. Je savais pas ce qu'elle devait faire. Du coup, je savais pas si sa mission se passait bien ou pas.
Oui.
Ce qui était un peu emmerdant. Et même en fait, au début, l'enjeu final, c'est de retrouver. Où est Rachel et pourquoi elle a dit mon père est mort une deuxième fois, qui est un nom de code, mais en fait là, utilisé, je pense, pour de vrai. Son père est vraiment mort, il me semble.
Bah, en fait, elle utilise ce code parce que c'était le code qui l'a séparé de l'homme qu'elle aimait. À la fin, quand elle dit je crois qu'elle est en mission avec le mec, et puis il dit vous allez dans le restaurant, tu vas le faire parler. Mmh. Et finalement, Martin Freeman l'appelle en disant mon père est mort, qui est le code de on va venir le choper. Donc ça, elle n'a pas supporté, donc elle utilise ce code une deuxième fois pour dire en gros, je vais me venger.
Ah bon? Bah voilà, moi j'ai.
Ah, c'est ça que j'ai compris, Armand.
C'est ça que j'ai compris aussi, mais. Voilà.
Moi j'étais perdu. Vraiment, j'étais perdu.
T'avoue que comme c'est. En fait, c'est un peu chronique. Mais chronique. Il n'y a pas de thème, il n'y a pas d'unification de thème. À part que peut-être c'est quelque chose qui est rebattu dans les films d'espionnage, qui est toujours passionnant. Mais là, je trouve que ce n'est pas exploité à fond. C'est à quel point le fait de se lier aux gens que tu dois espionner va commencer à déborder en fait, sur ton travail. Et comment tu peux te lier d'amitié et tomber amoureux. Et du coup, passer dans l'autre camp ou alors te tromper. Quoi. Non, mais ce n'est pas exploité à fond.
Je trouve que ce n'est pas exploité parce que même... ok, elle en empêche... elle essaie d'empêcher Farhad de se lier avec les propositions du Mossad pour le protéger. Mais c'est à peu près tout. Jusque-là, elle faisait tout ce que le Mossad disait. Et en fait, je ne comprends pas surtout l'enjeu dans cette pièce qui est tout le film, en fait, et l'interrogatoire de Thomas les autres équipiers du Mossad. Je ne comprends pas l'enjeu de retrouver Rachel.
Si, parce qu'elle a des... malheureusement, en fait, ils le disent beaucoup trop tard. C'est-à-dire qu'ils ont même l'air de découvrir pourquoi. En fait, ils ne veulent pas qu'il y ait un agent qui soit hors de leur contrôle, déjà. Ça, ils détestent.
Okay, oui.
Et en plus de ça, elle a des informations sensibles justement sur l'armement iranien et sur comment le Mossad opérait au sein de Téhéran, donc elle a des infos sensibles et elle pourrait les révéler. Donc ils ne veulent pas qu'elle soit dans la nature. D'accord, ils veulent remettre le grappin dessus.
Je trouve qu'on ne sent pas la menace. Quoi.
On le dit beaucoup trop tard.
On la voit pas non plus elle agir en attendant. Pour moi, tout est resté très très en l'air.
Ouais.
Et effectivement, c'était un peu chronique et malheureusement. Je restais très à distance aussi des personnages. Pourtant, j'aime beaucoup ces acteurs tous.
C'est très bien joué, en plus.
C'est très bien joué. Je les aime vraiment bien tous. Mais je me disais vraiment, si elle faisait tuer, j'en aurais rien à cirer. Quoi. J'étais pas du tout attachée à elle. Quoi. J'étais pas attachée à elle. J'étais attachée à personne. Donc, j'étais un peu embêtée. Et je crois que ça faisait un petit peu...
Moi, je me suis attachée. Mais je me rends compte qu'avec les enjeux qu'ils avaient à disposition, ils auraient pu nous donner beaucoup plus d'émotions avec ce personnage. Nous donner l'impression de beaucoup plus de danger. Surtout qu'il y a des scènes de tension. Il y a cette scène dans l'ascenseur où...
bien.
Ou elle efface. Mais c'est pas mal, mais en fait, limite, ils auraient pu pousser encore plus. Ils auraient pu nous dire, ben, le fait, ils auraient pu nous expliquer exactement ce qu'allait se passer, parce que tu ne sais pas que quand les portes vont s'ouvrir, t'as un type qui va ouvrir son sac, enfin, sortir un flingue et tuer le gars. Comme tu ne sais pas ce qui va se passer, tu ne sais pas comment ça, tu ne sais pas à quel point ça dérape. Et du coup, quand ça dérape, tu te dis, ah bon? Alors que si tu savais exactement ce qu'allait se passer, quand tu vois que ça dérape, tu dis. Oh
effectivement, quand la nana monte dans l'ascenseur, ouais, mais... t'as un petit sous-entendu de dire où elle essaie de la faire sortir. Mais
pour moi, c'est pas suffisamment.
Je pense
précisé.
Que la tension, elle aurait été mieux gérée pour le spectateur si on savait que.
Il y a un problème de gestion de l'info.
Il y aurait vraiment un problème de dire n'importe qui rentre dans l'ascenseur. S'il n'est pas utile, il va se faire dégommer
avec. Ouais, c'est sûr.
Et du coup, pendant toute cette scène, au lieu de se dire y a une nana qui n'était pas dans le plan, ça va être chiant, on se dirait la pauvre meuf.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est pas du tout la même
on aurait eu peur
gestion
pour elle.
D'émotion, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Donc ça marche pas super.
Un des problèmes de ce film, et je trouve, je réitérerai cette critique quand on parlera des Faussaires de Manhattan, c'est que c'est basé sur une histoire vraie. Et que les histoires vraies, c'est dur d'écrire une bonne histoire avec beaucoup de conflits, beaucoup de rebondissements quand c'est pas vraiment arrivé. Et là, sa vie qui est arrivée, c'est sûrement très passionnant, mais en film, ça fait qu'il nous manque des choses. Il nous manque beaucoup de choses dans ce film.
Ils auraient pu s'échapper un petit peu plus de l'histoire originelle, du roman d'ailleurs, parce que c'est déjà un roman à partir d'une histoire vraie.
Exactement.
Et dans l'adaptation, il y a quelque chose qu'ils ont un peu perdu, je pense. Voilà.
Et alors j'aimerais parler de cette scène quand même, où c'est le deuxième, enfin pour moi c'est le climax de ce film. Enfin, tu me dis en termes d'action, c'est le moment où elle doit livrer la voiture dans le camion. Alors déjà, je n'ai pas compris pourquoi c'est elle de livrer ça. Comme dit, elle ne parle ni arabe, ni israélien, ni rien, elle est perdue. Pourquoi c'est elle de conduire ça? Et deux, quand il y a la police iranienne qui arrive, donc elle est obligée de se cacher, je n'ai pas compris où, sous le camion,
dans,
je crois, enfin bref.
C'est
sous les sièges. Voilà. Sous les sièges.
Et il y a un des mecs qui essaie de la violer à ce moment-là. Pourquoi?
Alors, pour moi, ça n'avait... Enfin, c'est la preuve que c'est chronique, ça vient d'une vraie vie, parce que c'est arrivé. C'est parce que c'est probablement arrivé pour de vrai. Et ce qui est dommage, c'est que cette scène, en fait, elle est révoltante. Donc, en fait, elle te procure beaucoup d'émotions, parce que tu te dis, mais quelle espèce de... connard.
Ah non,
mais
c'est pas ça que tu me disais.
Le danger,
utiliser
sa peur d'être découverte pour la violer.
Ah non, mais non, mais je me suis dit
sans qu'elle dise rien.
Non, je me suis dit mais qu'il est con. Je veux dire, il prend un risque énorme qu'elle hurle et qu'il se fasse choper par la police iranienne.
Il prend un risque énorme. Mais le fait est que certainement, si elle le raconte, c'est que c'est arrivé. Il y a des gens qui sont capables de faire ce genre de
ah oui, non, ça
d'ignominie.
Je doute pas de la véracité.
Ah oui, non, je doute pas non plus.
Mais effectivement, cette scène, elle est.
Et elle rien à faire. Attends,
mais elle est
hors
contexte, donc du coup, tu la vois, tu fais ah, c'est glauque. Et puis il n'y a pas de conséquences à ça.
Ah, mais surtout après,
c'est très en l'air.
Comme tu dis qu'il n'y a pas de conséquences, il s'arrête la voiture, le mec il l'a violé, il marche. Et puis il s'en va. Et puis il dit ok, c'est bon. Tu vois.
Non, j'ai envie qu'elle le poursuive et qu'elle le renverse.
J'étais persuadé, justement, elle prend la voiture, je me suis dit ok, là on va tomber sur quelque chose d'intéressant. Elle va aller buter un mec qui était utile pour soit l'armée iranienne ou quelque chose comme ça. Non, elle prend sa voiture et là je trouve que le film prend un virage. Pas à 90 degrés, mais pas loin. Et là, ça devient un téléfilm TF1. Je précise que je n'ai rien contre les téléfilms TF1. C'est une espèce de menace de viol. Et après, elle a un accident, mais ridicule. Où il y a un camion qui fonce dessus. Et puis, elle pleure, elle chouine. Mais ça devient.
Ils sont probablement pas assez éloignés de ce qui s'est passé pour
c'est
de
ça.
Vrai.
Ouais. C'est vraiment, ça a été un énorme problème. Voilà. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on dit de récurrent dans ce film. On parlait ça aussi dans le. Ce film, tu te rappelles, avec le garçon qui va dans un centre pour homosexuels
Boys
Erased. Voilà. Là où, pareil, où je trouve qu'ils n'avaient pas pris le bon personnage parce qu'ils adaptaient un bouquin. Les Faussaires de Manhattan, on en reparlera. C'est le problème, c'est le bouquin. Là, le problème, c'est le bouquin. Ça aurait pu donner une histoire intéressante pour les histoires d'espionnage. J'aime beaucoup ça.
Non, après,
celle-là n'est pas intéressante.
Non, mais comme on dit, il y a peut-être aussi un problème. Je trouve que quand on en parle, c'est plus intéressant que ce que j'ai vu. Je comprends déjà mieux ce que j'ai vu en parlant avec vous parce que vraiment je pense qu'il y a un problème aussi de traitement de l'information comme on l'a dit, on nous donne pas cette clé en disant ouais c'est mystérieux, c'est super, ouais, mais en même temps du coup nous on ressent rien, on est donc personnellement j'étais très très perdue et je luttais contre le sommeil.
Je me suis endormi trois fois au début.
Moi qui suis impitoyable, pour une fois, j'ai pas été spécialement endormi.
Mais alors, attends, question. Alors, est-ce que t'as compris pourquoi c'était elle de conduire la voiture?
Je pense que tout simplement, c'était quelqu'un de jetable.
Ah.
C'est-à-dire qu'à ce moment,
utile,
à ce moment-là, non, justement, il commençait à vouloir s'en débarrasser.
Ah. Mais même il y a une scène qu'on voit deux fois, d'ailleurs, sur est-ce que tu essaies de me débarquer?
Oui, voilà. Pourquoi on la voit deux fois? Voilà.
Oui, non, on la voit. Et en fait, c'est une espèce de shark théorie. Donc, shark théorie, c'est le fait d'accrocher le spectateur au début avec une scène qu'on verra en fait plus tard. Mais ça a raté parce que bah, encore une fois, bah, quand on voit la scène la première fois, elle ne nous choque pas parce qu'on les connaît pas, on s'en fout, que on comprend qu'il y a eu un dérapage avec un mec parce qu'il dit ouais c'est toi qui as eu les mains dessus, etc. Mais elle est pas très forte, on l'oublie, quand on la revoit, bah du coup on a plus une impression déjà vue que c'est de vrai. Se dire ah ouais,
ah c'était pour ça.
Ouais, tu,
ça.
Tu sais que j'ai cru que
ça fonctionne pas quoi.
Parce que je me suis endormi trois fois dans le film et j'ai cru qu'en fait je me suis dit ah en fait ça me dit quelque chose cette scène, j'ai dû la voir dans la bande annonce, alors qu'en fait non, c'est au début du film. Bon, on va juste
il y a prendre... ce choix de point de vue qui est aussi étrange, c'est-à-dire que on fait un interrogatoire pour demander à quelqu'un alors qui est cet agent, quelle est son histoire. Et donc, tu as Martin Freeman qui te raconte tout, sauf que c'est pas raconté de son point de vue à lui.
En plus,
donc, c'est un peu étrange ce choix.
Après, je trouve que c'est un peu drôle aussi d'avoir l'explication qui est donnée pour que Martin Freeman ne parle pas hébreu, mais le comprenne, où il dit oui, mais je peux le parler, mais on se moque de moi avec mon accent.
On se moque de moi, ouais.
Du coup, on parle en hébreu, mais je réponds en anglais.
Pourquoi pas.
À ce moment-là, allez au bout et prenez.
Ouais. Mais dans les points positifs,
ah, oui.
c'est peut-être la transition que tu cherchais, Guillaume, parce que c'est que en fait les dialogues sonnent très très juste, je trouve. Les dialogues sont plutôt très très bons. Ça c'est pas du scénario, mais je trouve ça extraordinairement bien joué. Je trouve que la manière de montrer l'espionnage. Et spécifiquement les méthodes du Mossad, je trouvais que ça sonnait juste. Et dans un film d'espionnage, c'est suffisamment rare pour être apprécié.
J'espère qu'ils sont plus efficaces que ça, mais j'aimerais juste parler de la toute dernière scène où ils essayent de faire un peu d'action. Donc, du coup, en gros, elle fait chanter le Mossad, qui dit voilà, je veux partir, moi et mon mec, ils vont nous laisser tranquille. Le Mossad dit non, très justement. Ils vont pas se laisser faire.
Bien sûr.
Et ça finit qu'elle se fait poursuivre par des agents et Thomas la protège. Mais enfin bon, on sait très bien qu'elle va se faire choper et qu'elle va mourir quoi. J'ai trouvé cette fin nanardesque au possible.
Bah pas nanardesque, mais en tout cas tout à fait insatisfaisante.
Ouais.
Parce que ça s'arrête, tu sais pas si elle va être attrapée ou pas. Tu te doutes que oui ou.
Bah, mais si elle a
mais c'est surtout
bouquin,
à quoi bon. Pourquoi
que...
terminer là.
Oui, pourquoi terminer
ça termine sur un grand bon.
Ah,
d'accord.
C'est, ouais,
pourquoi
c'est
pas.
C'est pas terrible quand on s'arrête dans un film en disant ah c'est fini.
Ouais, c'est ça.
J'étais quand même content que ça soit fini.
Mais moi aussi.
Bon, allez.
Mais, oui, ils auraient dû couper plus de choses.
Il y a un dernier mot au final.
Non, mais du coup c'est à charge contre le Mossad. Ce qui est cool au moins, c'est que c'est un Israélien qui l'a fait ce film.
Mm-hmm.
Mais je sais. En fait, ce qui me dérange, c'est que je ne sais pas quoi en tirer de ce film. C'est est-ce que c'est dur d'être en première mission au Mossad? Est-ce que c'est le Mossad est méchant? Est-ce que c'est dur justement comme tu le disais de gérer ces interactions humaines quand tu es espionne? À la fin moi j'ai des petits bouts de éparpillés et ça me dit rien quoi. Je sais pas ce que je suis censée retirer de ce film.
Très bien, tour final dans un film
juste.
Armand,
pas nécessaire de le voir au cinéma malheureusement. Voilà, c'est passable, c'est oubliable, mais ça m'a pas, je me suis pas endormi, ce qui est un extra, c'est un super bon point.
Fiona,
pas nécessaire de le voir tout court. mais bon, au moins c'est cool pour les polyglottes. On se dit ah ouais, j'ai compris ce mot, ouais, pas mal.
J'ai compris quelques
voilà.
mots en anglais.
On peut réviser ces langues. Voilà.
Bah écoute, moi j'ai trouvé ça vraiment mauvais. Déjà, comme dit, on en a parlé au début, mais envoyer une espionne qui parle ni hébreu ni iranien alors que c'est une mission du Mossad en Iran, personnellement je trouve ça débile. Le Mossad a bien baissé hein, depuis la guerre des 6 jours. Et tu parlais des films où c'est la première mission de quelqu'un. Bah, je vous conseille, c'est un film français qui est sorti en 2008. Alors c'est pas le meilleur film de tous les temps, mais qui s'appelle Secret Défense. Et c'est l'histoire d'une première mission qui fait... Là on voit vraiment son recrutement, enfin là aussi. Mais on voit se faire recruter, on voit la faire une mission... je me rappelle plus dans quel pays, mais c'est un pays d'Arabie aussi, comme ça. Et je vous le recommande bien mieux que ce film, même s'il n'y a pas Diane Kruger.
Ça dit en passant, j'ai fait une figuration dans ce film.
C'est vrai ? Tu joues qui dans ce film ?
Je suis un des dans l'amphi, je suis noyé dans la masse.
Ah, est-ce que tu joues la scène que j'adore où le mec il tire partout ?
Ouais, c'est ça, ouais, je suis dans celle-là.
Non, mais j'adore cette scène. Ok, on enchaîne avec Les Faussaires de Manhattan, écrit par Nicole Olof. Alors, j'arrive pas à le dire. Nicole Olof-Fnuxner, pas de procès s'il vous plaît. Jeff Whitey, et c'est d'après l'autobiographie de Can You Ever Forgive Me de Lee Israel. Et c'est Fiona qui nous pitch.
Alors, donc Lee Israel est une. autrice, écrivaine, surtout biographe, qui a eu un succès en tant que biographe, mais qui maintenant ne gagne plus un sou et vit dans un appartement insalubre et n'arrive même plus à payer des médicaments pour sauver son petit chat. Chat qu'elle préfère à toute l'humanité globalement, parce que c'est quelqu'un d'assez aigri et de solitaire. Sauf qu'un jour, bah, du coup, elle a besoin d'argent, parce que... globalement, on a besoin d'argent dans la vie.
Dans la vie, en général. Ouais.
Et du coup, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait écrire à la manière de certains grands écrivains et du coup, faire des fausses lettres, donc les falsifier, pour pouvoir les vendre à des collectionneurs. Et elle commence donc un business de ces fausses lettres qu'elle écrit. Elle pense même écrire mieux que ses auteurs, à la manière de ses auteurs, mais même encore mieux qu'eux. Donc elle savoure enfin son métier d'écrivain. Sauf que bien sûr, la justice, le FBI la rattrape et ça se finit pas terrible pour elle. Enfin, ça va parce que quand même elle écrit enfin son roman sur sa vie et du coup là, elle devient vraiment célèbre.
Ok, on va revenir sur une des rares choses qui m'ont plu dans ce film, c'est-à-dire le chat, comme tu dis. C'est vrai que son chat est adorable, il est mignon, on voit qu'il s'en occupe bien, mais il y a une scène où justement on voit dans une très 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 longue scène de caractérisation qui dure beaucoup trop longtemps, hein, parce que le film démarre après, je crois, 35 minutes à peu près, et elle va chez le vétérinaire dit « bah non, vous avez des dettes impayées, vous pouvez pas payer », et elle n'y arrive pas. Première chose qu'elle fait en sortant, elle va picoler dans un bar. J'ai envie de te dire « mais si t'aimes vraiment ton chat, arrête de boire !» Et c'est ça le problème, c'est que je n'ai aucune empathie pour cette femme.
Oui, j'ai oublié de dire qu'elle était alcoolique.
C'est une alcoolique notoire, elle est méchante, elle est aigrie et tout. On ne peut pas aimer un personnage comme ça. Et pourtant, l'univers des faussaires, moi, il y a toujours un univers qui m'a énormément plu. J'adore les faussaires, les gens qui ont un talent énorme, mais qui n'ont en général aucune créativité. Et ils savent peindre aussi bien que Léonard de Vinci ou Van Gogh, mais ils ne savent pas créer quelque chose de nouveau. Et ça, je me suis dit... Parce qu'en plus, le titre, c'est les faussaires. Je ne savais pas, vraiment, je suis allé voir, je ne savais pas ce qu'elle allait copier. Bon, c'est des lettres, j'étais un peu déçu. Mais il y avait ce côté qui est intéressant dans le film de j'ai un talent immense, mais je n'y arrive pas. Et c'est très bien exprimé par une scène où elle dit bon, moi, je vais enfin écrire mon roman, et elle est devant la feuille blanche, quelque chose qu'on a tous connu en tant que scénariste, où je suis devant ma feuille blanche, je ne sais pas écrire. Et d'ailleurs, sa première phrase est très bien, où elle dit me voilà devant ma foutue machine à écrire. Donc je me suis dit, ah, ce film va parler de ça, va parler du fait d'avoir énormément de talent, mais de pas réussir à créer, et donc du coup, de copier ce que font les autres. Et ça, c'était bien dans le film, Fiona.
C'est pas exactement ça, en fait, qui lui arrive. Elle le dit à la fin, mais peut-être que c'est trop exprimé à la fin et pas assez montré tout au long du film. C'est qu'elle a peur de la critique et du coup, elle n'ose pas. C'est pour ça qu'elle se cache aussi derrière des biographies.
C'est pas faux, ouais.
Elle raconte la vie des gens. Il n'y a pas de... Effectivement, elle a peur qu'on critique son écriture et sa créativité. Du coup, elle se cache derrière ça et avec ses prête-noms, finalement, célèbres, qu'elle emprunte. Là, elle peut dire ce qu'elle veut et laisser un petit peu laisser son talent un peu s'exprimer parce que c'est pas son nom qui est derrière ça.
Oui, comme le dit son éditrice, enfin son agent, il dit on retient jamais ton nom, on retient la personne sur qui t'as écrit ta biographie. Donc exactement. C'est vrai qu'elle a peur de l'échec et qu'elle reste derrière cette espèce de oui, mais comme tu dis de cachette de la biographie.
J'ai trouvé que le film était donc
trop long
et ennuyeux sur une partie, mais c'est dommage parce que je pense qu'on n'était pas loin de quelque chose. Le sujet est intéressant, je trouve que la caractérisation des personnages marche bien. Effectivement, c'est des longues scènes pour exposer ce qu'on comprend très vite, mais elles fonctionnent, elles sont plutôt bien réalisées. Et je trouve qu'il y a quand même une ambiance, alors ça fait partie aussi du scénario, mais il y a quand même une ambiance dans le film assez particulière qui se dégage. Presque même un peu plus vieux que les années 90, pourtant c'est censé être dans les années 90.
Ouais, c'est vrai que je me rappelais pas qu'il y avait autant de machines à écrire dans les années 90. Mais,
du coup, il y a quelque chose d'assez sympathique, mais c'est vrai que c'est pas exactement du scénario. Et le problème pour moi, c'est qu'on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps à la voir faire ses fausses lettres et à profiter un peu de l'argent qu'elle récolte et s'inquiéter parfois qu'on reconnaisse que c'est pas des lettres authentiques. Mais du coup, ça, le moment où on arrive enfin à... Il y a une investigation, il arrive...
on est à 20 minutes de la fin du film.
Ouais, 30 minutes avant la fin du film, et c'est un peu long, parce qu'on a un peu ramé jusque-là, et on s'est un peu ennuyé depuis.
C'est un des gros problèmes de ce film, c'est le manque de conflit. C'est-à-dire, au début, elle a un moment de problème de fric, on nous signale vraiment, 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 vraiment beaucoup. Ensuite, elle commence à faire ses lettres, et les premiers problèmes arrivent 20 minutes avant la fin. C'est-à-dire, en termes de scénario, et là, comme je le disais tout à l'heure sur le film, ce qui a plombé ce film, c'est encore une adaptation d'un bouquin. Et le problème, c'est qu'ils ont voulu rester fidèles au bouquin. Je crois qu'elle est morte, hein, Liz. Je crois qu'il y a des cartons à la fin.
Oui, elle est morte en 2014.
C'est ça, elle est morte en 2014. Donc, du coup, ils se sont dit, oh là, on va respecter sa mémoire, on va pas copier sa vie. Ouais. Et du coup, ce film manque cruellement de conflits. Alors que, je dis, le monde des faussaires, c'est un monde qui est fascinant, qui peut être fascinant. Et encore une fois, je me répète, mais je trouve que la vraie vie, c'est chiant en fait. On apprend en termes de scénario que soit la vraie vie c'est chiant, soit la vraie vie c'est pas crédible. Des fois, il se passe des choses tellement énormes qu'on se dit ça pourrait pas passer au cinéma. Bah là, ils ont pas réussi à trouver le juste milieu et on s'ennuie. Je vais pas dire mortellement, mais on s'ennuie beaucoup. Je veux dire, il y a quelqu'un qui a quitté la salle. On allait le voir ensemble tout à l'heure. Moi, j'ai ébahi un nombre de. Je me suis pas endormi.
J'ai regardé ma montre souvent.
Mais c'est dommage parce que ce film avait un vrai potentiel.
Oui, je suis d'accord. Et bah, mais c'est vrai que par exemple, ça se voit avec le personnage de Anna. Celle à qui elle vend ses premières lettres.
Ah, la bibliothécaire.
Avec qui elle a un peu un rancard, etc.
Moi, j'y crois pas, moi, ça.
Oui, parce que toi, tu dis ça, parce que Melissa McCarthy, elle est pas terrible, quoi.
Oui, vu que l'autre, elle est quand même pas mal, quoi.
Oui, mais bon, on sait pas, elle est aussi attirée par les écrivains.
Mais elles ont 20 ans d'écart.
Bon, peu importe. Moi, je veux bien y croire, mais je trouve que ce personnage, du coup, est sous-exploité parce que ça aurait été peut-être plus intéressant que ce soit la première, elle, à douter. D'authenticité des lettres et d'être dans le secret et de se dire est-ce que je vais la dénoncer, en même temps elle m'arnaque mais je l'aime bien, enfin, je pense que là avec ce personnage là il y avait plus d'enjeux et de dramatisation à jouer, mais effectivement bah, comme ça s'est sûrement pas passé comme ça dans la vraie vie, ils osent pas prendre des paris un peu plus risqués. Après moi, toi je crois que tu l'as pas aimé, mais moi j'ai bien aimé le personnage de l'ami homosexuel.
J'ai trouvé extrêmement cliché.
Oui, il était cliché. Il était cliché, mais les clichés existent pour une raison. Hein. Il y a des gens comme ça, hein, tout simplement.
Oui.
Donc moi, j'y croyais à ce mec-là et je trouvais que leur relation était assez sympathique. Ça marche bien. En fait, j'ai pas grand-chose à reprocher au film. Toutes les scènes fonctionnent, mais c'est trop long et il y a un mauvais choix de découpage et de montage et de conflit.
Bon, je vais quand même revenir sur un point positif de ce film. J'ai trouvé la montée de comment elle part d'une autrice qui est en galère, qui marche pas, à devenir une faussaire, vraiment qui fait ça quasiment de façon professionnelle. J'ai trouvé la montée graduelle vraiment très très bien faite. C'est-à-dire que ça commence par un tout petit, elle trouve une lettre qu'elle a vraiment chez elle et elle rajoute juste un post-scriptum.
Non, elle l'a pas chez elle, elle la pique dans un bouquin qu'elle
tombe par hasard, oui, c'est ça. Elle fait des recherches, elle tombe par hasard sur une vraie lettre. Et puis elle rajoute un post-scriptum. Et la libraire qui est vendue, oh, le post-scriptum, c'est vraiment ça qui fait la différence. Et là, elle se rend compte qu'elle va pouvoir
parce
exprimer
que,
son talent.
Parce que, dans les lettres ont de la valeur donc selon qui est l'auteur qui les a écrites, mais aussi pour le contenu. Si c'est une lettre hein, qui dit juste merci pour le dîner, c'était formidable.
Si c'est une liste de courses, ça vaut rien.
Ça vaut 30 $, alors que s'il y a. As-tu vu le nez de machin qui on dirait qui ressemble à une patate ou je sais pas quoi, bon, ça devient un peu plus juteux et ça se vend plus cher.
Et c'est finalement ça qui l'a fait tomber, puisqu'elle écrit une lettre à la place d'un auteur qui est homosexuel, je crois, et quelqu'un qui connaît bien l'auteur a dit non, mais jamais il aurait osé
aussi ouvert sur son homosexualité
parce que c'était extrêmement répréhensible à l'époque et il n'aurait jamais pris ce risque. Et c'est comme ça qu'elle tombe. Donc elle se fait piéger par. Ce qui lui avait apporté succès.
Donc, par son propre contenu.
Donc, scénaristiquement, ça, on va dire que ça marche, quoi. Ok, bon, bah, tour final sur ce film, Fiona.
Je trouve que c'est intéressant. Après, c'est un peu long, quand même. Hein. C'est un peu. Si le sujet vous intéresse, si aussi les. Aussi, il faut dire que moi, les noms de la littérature, là, dans quel site, je les connais pas.
Normalement, je ne connaissais qu'un ou deux.
C'est Dorothy Parker qu'on parle beaucoup. Mm. J'avoue que moi, je connais pas. J'ai peut-être déjà entendu le nom, mais j'ai jamais lu. Du coup, peut-être qu'il y a un petit sel qu'on peut avoir si on connaît les auteurs et qu'on connaît un peu leur façon d'écrire. Quand on les connaît pas, on reste un petit peu sur sa fin et on s'ennuie un peu. Quoi. C'est un peu long.
Moi, je dis que c'est le film parfait, regarde en accéléré, mais vraiment, parce que c'est pas si mauvais que ça, mais c'est trop long. Et le titre original est Can You Ever Forgive Me ?
Oui, qui est beaucoup mieux.
Eh bien, non. Ah, ouais. On termine avec Crawl, écrit par Michael Ramundsen et Sean Ramundsen. Je crois qu'ils sont frères, mais j'ai pas eu le courage d'aller chercher. Et alors, c'est moi qui vais le pitcher, je vais faire ça très vite. C'est l'histoire de Hayley, qui est une nageuse, peut-être en devenir, mais pour l'instant, elle n'arrive pas à progresser. Et puis, il y a un énorme ouragan qui s'abat sur la Floride et son popo répond pas. Alors, n'écoutant que son courage, eh ben, elle va le chercher en voiture. Et elle le découvre dans sa cave, il est en train de faire une petite réparation, il s'est fait mordre par un alligator. Et du coup, elle l'aide, sauf que des alligators qui sont dans la cave, il y a l'ouragan, personne ne peut les aider et ils sont coincés. Voilà. Fiona.
C'est un film d'horreur, je dirais, je sais pas, de thriller.
C'est un mélange entre un film d'horreur et un film catastrophe.
Qui n'a pas grand intérêt à mes yeux. Dans l'idée, c'est Garo Croco, quoi. Voilà,
La morale de ce film, c'est ne faites pas à Miami avec des crocodiles.
Ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est, on se dit, bon, bah, on se coince, il y a des crocodiles.
Je crois que c'est des alligators.
Oui, c'est vrai, c'est des, des alligators. Ouais.
Tu connais la différence entre des crocodiles et des alligators?
Non, dis-moi, Guillaume.
C'est caïman la même chose. Karim Debbache.
J'ai vraiment cru jusqu'à la fin que t'en avais une autre, mais non, c'était celle-là.
Exactement ça.
Wow.
C'est Karim Debbache, si tu m'écoutes, elle est pour toi.
En tout cas, Garo Croco, j'adore ce titre, je le retiendrai à tout jamais.
Ah bah, ils auraient pu, ils auraient
pu. C'est un peu ça le film, quoi. Je pense qu'ils ont, c'est juste dit, ça serait génial de voir. C'est le dent de la mer, mais avec des alligators. Je trouve que. Ah non, en fait, voilà, dans le vrai problème que j'ai avec ce film. En dehors du fait que je ne suis pas du tout attachée aussi aux personnages et qu'ils auraient pu tous crever, j'en ai... ouais, peut-être que je manque de cœur. En fait, je pourrais voir tous les personnages mourir, j'en aurais rien à foutre.
Ça, c'est, c'est la troisième fois de suite que tu dis ça.
Vraiment, non, c'est horrible. Mais là, je trouve qu'ils sont tellement idiots. C'est le choix de... Vraiment, je pense, si c'était un film interactif où tu as des choix à faire, si tu fais les pires choix à chaque fois, c'est ce film.
C'est vrai qu'ils sont pas mal. Mais attends, alors avant de lister, on va le faire un peu pour s'amuser, toutes les conneries qu'ils font, je vais dire que le setup est intéressant. C'est-à-dire que t'as le coup classique de la père, la fille, le père. D'ailleurs, le père, j'ai l'impression que l'acteur, il y a 10 ans de plus qu'elle. Mais oui. Bon, on va rien dire. Ils sont coincés. Il y a les crocodiles. Il y a l'eau qui monte. Donc, il y a un time lock. Le setup est plutôt intéressant. Je veux dire, pourquoi pas ? Je veux dire, ok, ça vole pas haut, mais c'est le film de ce genre. Je veux dire, pourquoi pas ? Comme tu dis, après, ce problème, c'est qu'ils prennent une décision débile après débile.
Sur le setup, juste aussi, oui. Effectivement, je suis d'accord. Ça marche bien, ça fait peur. Et là où je les trouve assez... Merci Yara pour cette intervention. Là où je les trouve assez forts, c'est qu'à un moment ils voient, donc ils sont cachés, ils sont coincés dans la cave, et à un moment à l'extérieur ils voient des gens sur un bateau qui pourraient peut-être les aider. Donc ils arrivent à leur faire signe avec une lampe torche. Mm-hmm. On se dit ah ben, ça va peut-être être sauvé, mais en fait comme la ville est déjà inondée, ils sont sur leur petit bateau et ils se font tous bouffer avant même d'arriver par plein d'autres alligators qui sont dans la rue. Et du coup, tu te dis, ah ouais, en fait, même s'ils sortent de la cave, il n'y a pas d'issue. Enfin, c'est... Là, tu sens vraiment le danger se resserrer et tu te dis, bah, même sortir de la cave n'est pas la solution pour s'en sortir. Donc, tu as un vrai sentiment d'oppression et de se dire qu'ils ne s'en sortiront jamais.
D'accord. Alors, la première connerie, moi, je trouve que Effie, parce que c'est Effie dans Skins, pour ceux qui étaient amoureux d'elle comme moi à l'époque, c'est qu'à un moment, elle perd son téléphone portable parce qu'ils sont coincés dans un endroit de la cave où les alligators ne peuvent pas les atteindre.
À cause des tuyaux. Voilà, y a des tuyaux qui bloquent et du coup, ils n'arrivent pas à passer.
Pourquoi pas ? Sauf qu'elle fait tomber son téléphone, donc elle y va, elle attend que l'alligator regarde ailleurs, elle va chercher le téléphone, et au lieu de revenir à l'endroit où elle est sûre, elle décide d'appeler la police au même endroit. Comment t'expliquer à quel point c'est débile ?
Oui, parce qu'évidemment, c'est vraiment extrêmement idiot, parce que tu dis, mais non, là, tu prends le téléphone et tu retournes en safe zone pour appeler. Et ben non, elle a le temps, elle le fait là, sur le coup, en attendant que l'alligator vienne la choper.
Exactement.
Et bah, qu'est-ce qui se passe ?
Elle se fait mordre parce qu'il y avait un deuxième alligator. Et alors ensuite, donc à peu près à la moitié du film, elle arrive à sortir de la maison. Elle arrive à sauver son père en défonçant le plancher alors qu'il est sur le point de se noyer, évidemment, au dernier moment, à l'américaine. Et là, je dis, ah, le film va passer à autre chose. Ils sont sortis de la maison, on va vraiment rentrer dans un autre acte. Sauf que là, ils disent, bah, on va prendre un bateau, le bateau des fameux trois jeunes qui étaient en train de piller un petit magasin. Et là, le père lui dit, écoute, il y a le bateau qui est là-bas, alors que n'importe qui serait monté sur le toit en attendant. Je veux dire, il faut quand même traverser une rue remplie d'alligators, mais il y en a des dizaines.
Plein, il y en a vraiment plein.
Et là, le père lui dit, je pense que tu nages plus vite qu'un alligator.
Oui, c'est vrai.
Vas-y, j'y crois
tu
en toi, maman.
Que... Non, mais le père est horrible. Ah oui, c'est ce que je veux dire sur les personnages. Le père, mais c'est le pire père du monde. Alors oui, il est blessé, il est fatigué, mais... Il dit, bon, elle m'a dit, ma fille, ce que tu vas faire, tu vas aller là-bas, moi je reste planqué, je t'attends.
Oui, parce que...
Il lui dit quatre fois.
Oui, parce que l'histoire, en fait, sous-jacente, c'est là où t'as pas compris tout ce que le thème, la souffrance de ce personnage. C'est un personnage qui a pas confiance en elle, donc elle nage pas assez vite. Et là, en disant, tu vas voir, en termes de danger, tu vas prendre confiance en toi et tu vas nager plus vite que des alligators.
Surtout, en plus, elle attend surtout l'approbation de son père qui ne vient plus.
Exactement.
À ses compétitions de natation. Et en plus, qu'il a surnommé quand elle était petite. Super prédateur.
Ah oui. Elle dit, qui es-tu ? Je suis super prédateur.
Surprédateur. Voilà. Déjà, il savait que ça allait arriver, qu'elle serait déjà, elle devrait déjà battre des prédateurs.
Exactement. Donc du coup, elle arrive jusqu'au bateau parce qu'elle nage plus vite que les alligators. Bravo. Donc là, ils prennent le bateau. Je dis, bon, bah, on va passer vraiment à autre chose. Et là, il y a la plus grosse vague scénaristique de l'histoire du cinéma. Mais la vague, ramène le bateau exactement dans leur maison.
Dans leur maison.
Ils se retrouvent exactement.
Mais on va pas payer nos deux décors non plus. On va déconner.
Exactement.
Il y a aussi le fait qu'elle, c'est, je pense que cette fille après ce dans Crawl 2, mm-hmm. elle va rencontrer Charles Xavier et rejoindre les X-Men.
Exactement.
Parce que elle a un corps résistant.
Alors magnifique
à
déjà.
Tout,
d'une.
Magnifique, ok. Mais résistant à tout, c'est-à-dire que les alligators, ils ont mordu. Un policier, enfin deux policiers, deux, trois autres petits jeunes, etc.
Ils se font déchiqueter, quoi. Démembrer, vraiment. Il y a la tête qui part, les bras, les jambes.
Tout part de l'autre côté. Mais elle, elle se fait mordre, quoi. Trois ou quatre fois.
Alors j'ai compté, elle se fait mordre une fois la jambe, mais vraiment au-dessus du genou. Elle se fait traîner. Elle arrive à s'échapper, ça va, elle arrive à marcher. Elle se fait mordre l'épaule. Ou le bras, non, le bras entier, où elle tue un alligator parce qu'elle a un flingue, elle arrive à le tuer.
Oui, alors qu'il est en train de les crocs coincés dans son bras.
Ça va. Et une troisième fois, elle se fait mordre l'épaule et l'alligator, alors ça c'est quelque chose qu'ils font vraiment, ils tournent sur eux-mêmes pour épuiser la proie. Alors que son père, juste avant, mais genre vraiment 5 minutes avant, se fait carrément arracher un bras. Lui se mord le bras, son bras s'arrache elle. D'avoir une peau en adamantium, c'est incroyable. Et il y a cette scène qui est ridicule, extraordinaire, où justement ils essayent. En termes de scénario, ça se tient parce qu'ils essayent de lier le danger physique au danger émotionnel. C'est-à-dire qu'elle se fait morte par l'alligator, qui lui fait faire des tours, donc elle se dit elle est foutue. Et là, elle a un flashback, mais comme dans Olive et Tom. Hein. Elle a un flashback, mais comme dans Olive et Tom, où elle nage et son père qui fait plus vite, plus vite, plus vite. Et donc elle arrive à ramasser une espèce de fusée éclairante pour déclarer, et elle arrive à cramer l'œil du croco qui échappe. Et le film finit comme ça. Elle monte sur le toit,
il y a un hélicoptère qui vient les chercher. Qui les repère, donc on se dit ils vont s'en sortir. Moi je pensais. Voilà. Ah oui, il y a. Non, le personnage le plus intelligent de ce film.
C'est la sœur qui ne vient pas.
Non, c'est la sœur qui ne vient pas, et c'est le chien.
Oui,
le chien, qui lui n'est pas débile,
Sugar
qui est très mignon, et qui s'en sort aussi, hein, tout le monde s'en sort globalement, sauf les policiers qui sont venus les sauver, hein, y a que, en tout cas les trois là ils s'en sortent, et le chien lui il fait des choses intelligentes, c'est-à-dire qu'il prévient quand il y a du danger, il va pas dans l'eau, non ça c'est bravo le chien.
Alors on va juste finir sur le fait, à un moment elle se fait un garrot à la jambe, c'est une mauvaise idée, quand on fait un garrot c'est que c'est vraiment c'est l'extrême onction, c'est-à-dire si tu fais un garrot, bah ta jambe va plus être alimentée en sang, donc le sang va pourrir. Donc lui, à un moment, quand le père se fait arracher le bras, il fait un garrot. Oui, là, c'est le bon moment pour faire un garrot. Parce qu'il n'y a plus de bras. Pour éviter de faire une hémorragie. Elle se fait mordre. Justement, pas tant que ça. Elle fait un garrot. Non, faut pas faire de garrot.
Nage, on dirait... Alors, je veux bien croire à l'adrénaline.
Mais quand même,
là, elle nage à la perfection, alors qu'elle avait quand même la jambe en sang, déchiquetée. Et c'était horrible.
C'est ça. Et on avait un débat, ce qu'on a vu ensemble. Et on se disait, est-ce que le père va survivre? Et moi, je te disais, il va survivre parce qu'il est trop blessé. Pour mourir. S'il était mort, ça serait devenu comique. Parce qu'au début, on arrive, il y a la jambe pétée, il vient vraiment une fracture ouverte avec l'os, et puis alors il se l'armait avec une clé à molette en revenant. Ensuite, il se fait arracher le bras, il se fait un garrot. Je me suis dit, non, s'il meurt, ça sera trop. Et tu vois, j'avais raison, il s'en est sorti. Quoi. On va arrêter là sur ce film. Tour final, Fiona.
Je suis pas fan de ce genre de film de base, mais celui-là, en plus, me paraît réellement sans intérêt. Il y a quelques jumpscares et ça fait peur, les crocos. Voilà quoi, gare au croco, et par contre, et aucun attachement au personnage, quoi. Aucun.
Mais le pire en plus, c'est qu'il y a des moyens, ça fait pas cheap comme.
Les alligators, ils sont bien faits, mais je trouve quand même qu'on voit bien l'image
de
synthèse.
On sent qu'il y avait du pognon, toi. Y a quand les digues explosent, vraiment, tu vois, c'est pas Sharknado, quoi, avec la tornade remplie de requins, où tu vois effectivement. Là, il y avait comme du pognon, je vois pas comment tu pourrais faire mieux que ce film, tu pourrais sûrement faire mieux. Mais
au niveau du scénario, tu peux faire mieux, hein, ça c'est sûr.
Tu peux faire mieux. Et juste pour préciser une dernière chose, il y a un moment, un des flics qui arrive avec un bateau, il a son moteur à hélice, et quelque chose qui coince, et il descend et il essaye d'enlever les algues avec sa main. Faut jamais faire ça. Si vous écoutez, ne faites jamais ça. Parce que quand vous enlevez les algues, et ben, il est possible que le moteur se remette à tourner d'un seul coup et vous perdez vos doigts. Faut toujours prendre un petit bâton pour enlever. Ça vaut pour les tondeuses aussi. Voilà,
et d'ailleurs,
petit
il a été
message.
Puni pas par l'hélice, mais par le croco qui l'a bouffé après.
Est-ce que c'est pas bien fait pour sa gueule?
Exactement.
Ok, on s'arrête là, on passe aux deux recommandations de la semaine. Armand.
Donc c'est un film qui a été traité dans le précédent podcast, ou celui d'avant.
Non, c'était
celui
où
il y a deux, trois podcasts.
Parasite, que ben, oui, j'ai vu au cinéma et que je recommande de voir au cinéma, parce que je crois qu'il est encore dans certaines salles, qui est surprenant tout le temps, complètement fou. Pas parfait, mais vraiment, vraiment passionnant. Jamais vu, voilà, jamais vu. À voir.
Et d'ailleurs, t'en es où dans Parasite, Fiona?
Non, ça va, il est un peu remonté.
Fiona?
Moi, je vais recommander, alors je n'ai vu que le pilote, mais j'ai très envie de voir la suite, une série qui est sur Amazon, qui s'appelle The Boys, sur une, ça parle de super-héros dans notre monde actuel où il y a plusieurs, plein de gens qui ont des pouvoirs et donc qui entrent dans l'industrie des super-héros, et on voit donc comment ces super-héros dans ce monde très commercial sont pas forcément de vrais héros.
Mmh. Et, écoutez, puisqu'on
c'est, et c'est drôle et c'est, mais c'est dur, c'est quand même cynique.
Ah, c'est extrêmement cynique, c'est extrêmement garçon, c'est une excellente série. Puisque on est que trois, bah, je vais me permettre, je vais faire deux recommandations. Parce que c'est deux séries chères à mon cœur, entre guillemets, qui viennent de se finir. C'est la fin de Big Bang Theory. Après 12 saisons, c'est enfin fini. Il était temps que ça finisse, parce que vraiment, ça tournait en rond depuis longtemps. J'avais fait des pronostics avec moi-même en disant que bah, il finirait par gagner le prix Nobel. Et que c'est en couchant avec Amy qu'il arriverait à faire ça. Et que l'ascenseur finirait par marcher. J'ai eu raison et pas raison dans les deux cas, mais c'est toujours triste de voir une série qu'on suit depuis tant d'années terminée, et surtout qu'ils ont vraiment abandonné le personnage de Rage, et ça, je trouve que c'est vraiment un énorme gâchis dans la saison. Et dans la deuxième recommandation, la dernière saison, la septième et dernière saison de Orange is the New Black, qui est une série que j'ai toujours aimée. Les saisons ne se valent pas, il y en a vraiment qui sont exagérées, toute la scène qui se passe pendant l'émeute est beaucoup trop longue. La dernière, ils ont vraiment fait une fin, ce que j'appelle la The Wire, c'est-à-dire qu'il y a des personnages pour qui ça finit très bien, il y a des personnages pour qui ça finit très mal, et c'est, je trouve que c'est comme ça que la vie. Il n'y a pas de total happy end et de total bad end, et la fin, vraiment, la fin, la dernière scène est vraiment émouvante, donc à regarder, vraiment à regarder. Armand, tu avais une deuxième recommandation peut-être ?
Il y a une série qui s'appelle Pen 15, qui est complètement barrée, ça se passe au lycée, si j'ai bien compris. Et les deux personnages principaux, qui sont aussi les deux auteurs, autrices, pardon, ont la trentaine et elles jouent des lycéennes et elles font pas plus d'efforts que ça pour avoir l'air de lycéennes. Donc c'est complètement délirant et ça n'a l'air de ça pose de problème à personne. Et c'est très bête et très drôle. Ça parle énormément de sexualité de manière assez crue. C'est la découverte à 15 ans du premier string de machin. Bref.
Ok, bah très bien. Bah on vous remercie de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez nous écrire sur le Facebook de C'est quoi le pitch. Et puis nous, bah on va partir en vacances. Enfin, enfin pas toi, parce que tu reviens de Los Angeles, donc tu ne mérites pas de vacances. Mais nous, on va y aller. Et puis on se retrouve vers la mi-septembre. À bientôt.
Tu connais la différence entre un alligator et un crocodile ?
Non.
C'est quasiment la même chose.